suite de notre émission spéciale 70 ans de l'immigration italienne, Bertrand, vous recevez l'historienne Anne Morelli. C'est à vous.
Bonjour Anne Morelli.
Bonjour.
Vous êtes une historienne éminente de l'immigration italienne. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est l'un de vos thèmes de recherche favoris. Et vous publiez d'ailleurs un nouvel ouvrage qui s'appelle « Nouvelles recherches sur l'immigration italienne ». Ça fait donc 70 ans que ces accords bras contre charbon ont été signés avec l'Italie. On en parle. Qu'est-ce qu'on peut encore découvrir de neuf, 70 ans après, alors que cette histoire est déjà à ce point connue? Est-ce que vous avez, vous, encore découvert des nouveaux aspects de l'immigration italienne en Belgique?
Eh bien, évidemment, si on publie un livre qui s'appelle Recherches nouvelles, c'est qu'on a fait des recherches nouvelles et qu'on a trouvé des choses intéressantes. Alors d'abord, moi, je sursaute tout le temps ces jours-ci quand je lis dans le titre de la Libre Culture à l'occasion du 70e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique. Mais c'est pas le 70e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique, c'est le 70e anniversaire de ces accords de 1946. Mais il y avait beaucoup d'Italiens qui sont venus avant, et puis il y en a énormément qui sont venus après 1956 et Marcinelle. Et ça, ce sont des trous noirs de la recherche. Tout le monde se braque toujours sur les mineurs, les baraques, Marcinelle. Donc, il est intéressant de relever tout ce qui s'est passé avant et après, et puis les distorsions qui ont pu avoir lieu à propos de cet accord.
Alors, vous dites qu'il y a une sorte de canon de l'immigration italienne, de cet immigré italien venu des Abruzzes qui descend en gare de Marcinelle, qui va dans des cabanes et puis qui très rapidement va au fond de la mine. C'est beaucoup plus que ça.
C'est-à-dire que cette image est réelle, évidemment. Mais avant ça, il y a eu une immigration italienne qui remonte au 19e siècle et qui a déjà été assez importante dans l'entre-deux-guerres. Une immigration qui est très politisée. Une immigration aussi influencée par des milieux laïcs. Et après 1956, il y a beaucoup d'Italiens qui viendront encore, non plus par une immigration organisée, mais par une immigration personnel. Et par exemple, les Italiens de Bruxelles sont largement étrangers à l'émigration des mineurs. Ce sont des gens qui sont venus travailler dans des usines comme Michelin, qui sont venus faire les grands travaux de Bruxelles dans les années 70. Et puis, les fonctionnaires européens qui se déplacent aussi pour améliorer leur mieux-être. Parfois, ce sont des petites gens dans leur pays. Et puis ici, ils accèdent tout d'un coup à des conditions très valorisantes. Et puis les jeunes qui affluent aujourd'hui, les jeunes Italiens qui affluent à Bruxelles, et toujours pour la même raison, c'est-à-dire dans l'espoir d'un mieux-être.
Avec des destins très différents. Je veux dire, même sur le plan de la réussite sociale et économique, les premiers Italiens qui sont venus, pas les premiers, mais ceux de 1920, par exemple, se sont peut-être ont plus facilement trouvé la réussite que les Italiens qui sont venus juste après la guerre.
Alors,
dans lesquels il y a toujours des forts taux de chômage dans les descendants de cette immigration-là.
Alors effectivement, pour la première fois, je crois, nous présentons des cartes très claires de l'endroit où se trouvent les Italiens, mais aussi de leur situation sociale et économique. Et on voit évidemment que dans les bassins miniers, les enfants d'ouvriers sont largement restés des ouvriers. Ils sont devenus sidérurgistes, leurs filles sont caissières dans les grands magasins, des choses comme ça. Mais c'est une reproduction sociale.
Il n'y a pas d'émancipation sociale ou peu.
Ah oui, évidemment, il y en a, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On nous présente tout le temps Di Rupo, Adamo, Sandra Kim, un joueur de football. Ce sont les arbres, évidemment, qu'on met en avant, mais derrière ça, il y a un taux de chômage qui est plus du double de celui des Belges.
Donc cette image de l'intégration italienne, modèle de réussite, vous dites ce matin...
Ça
vous énerve.
Elle m'énerve.
C'est
parce
pas vrai,
que,
quoi.
Elle m'énerve parce que on présente les Italiens comme le modèle à suivre. Et vous, les Marocains, vous auriez dû faire la même chose que les Italiens, etc. D'abord, les conditions sont très différentes. Et puis, dans certains domaines, l'intégration politique, par exemple, des Marocains, a été beaucoup plus rapide à Bruxelles que celle des Italiens en Wallonie.
Il a fallu beaucoup plus de temps pour que des Italiens commence à émerger dans les structures des partis ou dans l'administration et qu'on ait un diroupo que actuellement pour des Marocains ou des descendants de Marocains qui vivent en Belgique.
Oui, effectivement. D'ailleurs, la seule voie où les Italiens pouvaient vraiment s'intégrer, c'était le syndicat. Mmh. Tandis que dans les structures...
Où ils sont toujours très présents.
Où ils sont toujours très présents. Mais pourquoi ? Mais pour être un délégué syndical de la sidérurgie, il faut d'abord être sidérurgiste. Mmh. Et les Italiens sont massivement dans les milieux ouvriers. Et donc, on leur a refusé le droit de vote très longtemps. Et pour quelle raison ? Parce qu'en 84, on a les chiffres, les Italiens de Belgique votent à 44% pour le Parti communiste. Mmh. Donc, les milieux politiques belges n'étaient pas du tout enthousiastes de leur donner le droit de vote, parce que cette émigration ouvrière a toujours donné un vote plus à gauche, non seulement que les Belges, mais même que les Italiens d'Italie.
Et d'ailleurs, vous expliquez, Anne Morelli, que notamment dans cette deuxième vague, celle d'après la Deuxième Guerre mondiale, celle que l'on commémore aujourd'hui, il y avait une sorte de tri, alors peut-être pas politique, mais on essayait, les autorités belges, d'éviter que les Italiens les plus politisés, les anarchistes, les communistes, viennent trop.
Alors effectivement, les milieux patronaux ont organisé une filière parallèle à la filière officielle, une filière vaticane qui recrutait dans les paroisses du nord-est de l'Italie, des gens doux, gentils et fiables, pour éviter d'avoir les subversifs, qui évidemment étaient les gens qui, les premiers, essayaient de fuir l'Italie et de trouver du travail, parce que, par exemple, on leur refusait du travail en Italie, étant donné leur implication dans des mouvements sociaux. Mmh. Et donc, il y a eu, dès le début de ces années de grand recrutement, deux filons différents dans l'immigration italienne de Belgique. D'une part, le filon catholique, autour de la mission catholique, encouragé par le patronat, et d'autre part, le filon contestataire. Mais jusque Marcinelle, les délégués syndicaux belges de la FGTB sont interdits d'entrer dans les camps d'Italiens.
Oui. Cette histoire de l'immigration italienne, surtout avec la commémoration de ces accords avec l'Italie, et aussi puisque ça fait 60 ans à peu près pour la catastrophe du Bois du Cazier, elle est toujours associée, ce qu'on peut le dire, dans la mémoire des Italiens de Belgique à la souffrance.
Je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique autour de la mémoire, mais c'est évident que c'est une histoire qui n'a rien d'amusant, de glorieux. Quand on dit on va fêter, moi je suis tout à fait d'accord avec Ministrou qui parlait tout à l'heure et qui disait il y a rien à fêter. C'est un arrachement, c'est un déchirement, c'est une obligation, c'est une déportation. On a employé le mot en Italie, ici en Belgique ça semble un peu choquant, parce qu'on pense tout de suite déportation,
on
les camps
juifs,
d'extermination,
exactement.
etc. Mmh. Mais au sens premier, être déporté, c'est être obligé de vivre loin de chez soi. Et les gens qui, en 1946, prennent la route, eh bien, ils sont obligés de vivre loin de chez eux, non pas par des discriminations raciales, mais par la misère, et aussi par une certaine forme d'oppression politique, de monopole politique qui régnait en Italie.
Alors, il y a combien aujourd'hui en Belgique, Anne Morelli, d'Italiens de Belgique, de Belges d'origine italienne ? D'ailleurs, il faut utiliser le terme juste. Hein.
Alors, de nationalité italienne, 200 000. Mais on ne compte pas là-dedans tous ceux qui sont descendants par leur grand-mère, etc. Alors, 200 000 qui ont la nationalité italienne, mais les cartes de notre livre montrent très bien qu'en fait, la majorité de ces Italiens de nationalité sont nés en Belgique.
Oui.
Et donc, ils ont voulu maintenir cette nationalité. Et d'ailleurs, dans quelques jours, il y aura un match Belgique-Italie.
Oui.
Et vous pourrez peut-être à cette occasion-là voir par exemple les Italiens de Molenbeek, parce qu'on oublie qu'à Molenbeek, la deuxième nationalité, ce sont les Italiens. Alors ils sont devenus un peu transparents, ils ont changé de quartier, ils ont été vers les beaux quartiers. Mais lorsqu'il y a un événement aussi important qu'un match Italie-Belgique, vous verrez peut-être au vent de superbes immeubles voler les drapeaux italiens.
Est-ce qu'il y a justement justement, puisqu'on parle des Italiens de Belgique aujourd'hui, une communauté italienne de Belgique. Il y a un communautarisme italien en Belgique, ça existe, on peut en parler comme ça.
Alors, pourquoi est-ce qu'en 1956, la Belgique a recruté ailleurs? Il y a bien sûr Marcinelle, mais il y avait déjà la volonté de modifier la provenance et de diversifier l'immigration par peur d'avoir une communauté. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'elle est tellement diversifiée politiquement, religieusement, que ça ne forme pas un danger.
Et pour clore cet entretien, quelques notes de musique. Anne-Aurélie, vous avez choisi Bella Ciao, pourquoi ?
C'est un air des partisans d'Italie. Alors, parmi les Italiens de Belgique, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont été combattants en Espagne, dans des brigades internationales, et puis qui ont participé à la résistance. Plusieurs centaines d'Italiens de Belgique ont participé à la résistance belge et l'ont payé très lourd.
C'était Anne Morelli. Merci Bertrand. Dans une vingtaine de minutes, nous poursuivons cette émission spéciale consacrée à l'immigration italienne et nous irons à Rome pour voir comment est perçue cette immigration italienne à l'étranger. Dans un instant, vous retrouvez votre café serré.